BPM.
Élections législatives 2022.
Bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. Le deuxième tour des élections législatives aura lieu dimanche. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales. Les candidats qualifiés pour le deuxième tour de la 9e circonscription viennent répondre à nos questions. Nous accueillons ce matin Laurent Morin, candidat du Rassemblement National. Laurent Morin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 46 ans, vous êtes délégué départemental du Rassemblement National des Yvelines. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France et conseiller d'opposition à Mantes-la-Ville. Alors, pour commencer, on va revenir ensemble sur les résultats de ces élections au niveau national. La coalition de la majorité présidentielle Ensemble l'emporte avec 25,75% des voix, devant l'Union de la gauche NUPS avec 25,66% des suffrages. Le Rassemblement national arrive troisième avec 18,68%, devant les Républicains 11,29% et Reconquête d'Éric Zemmour à 4,24%. Que pensez-vous de ces résultats ?
Bien d'abord, je pense concernant donc nos résultats, les résultats du Rassemblement national, qu'il s'agit d'une très forte progression par rapport à 2017. C'est donc une grande satisfaction, une grande fierté et un grand espoir pour ce second tour et pour les 5 ans qui viennent, puisque l'objectif, bien entendu, c'est d'écarter le maximum de députés de la majorité présidentielle pour que Emmanuel Macron n'ait pas les pleins pouvoirs. Je pense qu'on y reviendra. Concernant nos scores, effectivement, nous sommes le seul parti qui progressons par rapport à 2017, puisque la majorité présidentielle régresse. NUPES, en comparaison des scores de ses composantes de 2017, régresse également. Les Républicains régressent et le Rassemblement national, lui, augmente son score de 7 points par rapport à 2017. Nous faisons 1 300 000 voix de plus qu'en 2017. Nous sommes présents dans 208 circonscriptions au second tour, ce qui est un record. Et parmi ces circonscriptions, nous sommes en tête dans 110 circonscriptions. Donc, nous sommes en passe de pouvoir constituer un groupe à l'Assemblée nationale. Peut-être d'ailleurs le groupe le plus puissant que notre mouvement politique n'ait jamais constitué. En tout cas, je pense que nous ferons mieux que le groupe qui avait été constitué en 1988. Donc évidemment, nous sommes sur une dynamique très positive depuis déjà un certain nombre d'années. Ça s'est concrétisé au moment de l'élection présidentielle avec ce second tour et un nombre record de voix et de pourcentage pour Marine Le Pen au second tour. Et donc nous sommes dans cette progression au moment des élections législatives. Et c'est bien sûr très positif, je pense, pour l'ensemble des Français, car il faut que notre mouvement soit représenté à l'Assemblée nationale. Il est inadmissible de constater qu'en 2017, malgré déjà à l'époque un record pour Marine Le Pen et une présence au second tour, nous n'ayons pu avoir que 6 ou 7 députés à l'Assemblée nationale.
Oui, vous militez pour la proportionnelle, vous ?
Bien sûr, parce que je pense que toutes les composantes politiques de notre pays doivent être représentées à l'Assemblée nationale à due proportion de leur force politique dans le pays. Je pense que chaque parti a y gagné. Et cela reconnecterait les citoyens avec la politique et cela éviterait peut-être aussi de constater que le débat politique se fait dans la rue et parfois de manière violente. L'objectif de la représentation nationale, c'est effectivement de diminuer les tensions dans le pays et je crois à ce titre-là, puisque vous parlez de la proportionnelle, que Emmanuel Macron n'a pas tenu sa promesse. Il avait indiqué qu'il souhaitait instaurer une dose de proportionnelle en 2017. Ça faisait partie de son programme. Il ne l'a pas fait. C'est donc une promesse non
tenue. Il dit qu'il va le faire maintenant.
Oui, pourquoi ne l'a-t-il pas fait les 5 dernières années ? Pourquoi le ferait-il du coup maintenant ? Moi, je doute véritablement de sa volonté de faire jouer la démocratie. Je crois d'ailleurs qu'il n'est pas tout à fait démocrate sur un certain nombre de sujets. Il a une sorte de dérive personnel.
Sur quel sujet ?
On l'a vu sur les deux crises qui ont marqué le précédent quinquennat, la crise des gilets jaunes et la crise sanitaire. On a vu qu'il avait des tendances liberticides, par exemple. Je crois que la majorité présidentielle a comme objectif de déconstruire notre pays, et ils s'y prennent très bien, malheureusement pour les Français. C'est-à-dire qu'ils déconstruisent notamment les 3 valeurs cardinales de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité.
Vous dites ça pour le confinement ?
Oui, entre autres, mais de manière générale, les libertés ont été atteintes. Liberté d'entreprendre, liberté de manifester, liberté de circuler. Et concernant les deux autres valeurs, égalité, l'égalité a également été atteinte lors de la crise sanitaire, puisque Emmanuel Macron, de manière tout à fait honteuse et et indigne de la fonction d'un président de la République, a considéré qu'il y avait deux sortes de citoyens, les vaccinés et les non-vaccinés, et que les non-vaccinés n'étaient pas des citoyens. Donc l'égalité a été attaquée à ce moment-là, et la fraternité a également été attaquée à l'occasion de la crise des Gilets jaunes. Donc en fait, c'est quelque chose de très cohérent chez la Macronie, dans la majorité présidentielle, de vouloir déconstruire notre pays en attaquant les valeurs de notre pays.
Reconquête, qu'en pensez-vous ?
Écoutez, Reconquête, je trouve que c'est regrettable. L'attitude d'Éric Zemmour pendant l'élection présidentielle a été outrancière sur sa manière d'aborder la politique en général et sur ses propositions. Je trouve que sans la présence d'Éric Zemmour lors du premier tour de l'élection présidentielle, probablement Marine Le Pen serait arrivée en tête devant Emmanuel Macron, et du coup, on aurait pu enclencher une dynamique encore plus puissante que celle qui a eu lieu. Donc, je trouve regrettable qu'il n'y ait pas eu de volonté de la part de Reconquête, peut-être, malgré les annonces qui ont été faites par lui et ses représentants, mais je pense que dans le fond, il avait plutôt l'ambition d'essayer d'affaiblir ou même de tuer le Rassemblement National, ce qu'il n'est pas parvenu à faire. Et lors de ces élections législatives, eh bien, on constate qu'il n'a pas été qualifié pour le second tour. Aucun de ses candidats n'est qualifié pour le second tour. Il n'aura pas de député. Et je pense que l'histoire de Reconquête a du plomb dans l'aile.
Mais il vous a bien embêté quand même. Prenons l'exemple de la 8e circonscription. Alors, c'est un peu mathématique, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Mais on additionne Reconquête et le résultat de Cyril Nautre. Cyril Nautre serait arrivé deuxième et serait qualifié pour le second tour.
Oui, probablement. Probablement, et c'est là tout le regret que l'on peut avoir, puisque derrière les postures d'union, on se rend compte qu'en fait, Éric Zemmour et ses candidats ont provoqué une division néfaste pour les patriotes, puisqu'effectivement, sans un candidat Reconquête dans la 8e circonscription, Cyril Nautre aurait été, je pense, qualifié. Nous aurions eu un second tour probable entre la NUPES et le Rassemblement National sur une circonscription qui aurait du coup été très très intéressante à analyser. Donc je différencie bien les cadres de Reconquête qui ont effectivement fomenté une division du camp national. Je différencie bien ces cadres-là et les électeurs de chez Reconquête qui, de manière naturelle, à 90 ou 95%, vont se reporter naturellement sur les candidats du Rassemblement national partout où le Rassemblement national sera au second tour, et notamment dans la 9e circonscription où je suis au second tour. Je pense qu'on va y venir.
Ben justement, on va y venir. Dans la 9e circonscription, on va rappeler les résultats. Bruno Millième est arrivé premier avec 26,34%. Il était notre invité tout à l'heure à 7h30. Vous êtes donc arrivé deuxième à 22,45%. Victor Payac à 22,25%. Alors, 88 voix d'écart, hein. 88 voix vous séparent, comme quoi une élection n'est jamais jouée. Quatrième, Pauline Vinoncourt-Lefebvre, 10,22%. Et Christophe Lehot de Reconquête, 5,44%. Qu'est-ce que vous pensez, justement, alors de ces résultats dans la 9e ? Vous devez être content, quand même.
Oui, de la même manière qu'au niveau national, cette séquence électorale est une grande satisfaction, et personnellement également, puisque, vous l'avez dit, je suis qualifié au second tour. Je note d'ailleurs que sur cette circonscription, les scores que je réalise sont évidemment remarquables, dans la mesure où nous passons de 15% en 2017 à 22% en 2022. Nous passons de 6500 voix à peu près en 2017 à 9600 voix en 2022, ce qui est effectivement assez impressionnant, dans la mesure où je réalise un score, par exemple, supérieur au score qu'avait réalisé en 2017 Jean-Marie Tétart, qui était alors le représentant de la droite, qui était alors maire de Houdan, député sortant, président de la communauté de communes du pays houdanais, donc avec une véritable implantation. Eh bien, je réalise un score supérieur à lui, et je pense que ceci est dû à deux phénomènes. Le premier phénomène, on en a parlé en introduction, c'est la dynamique nationale du Rassemblement national qui s'est appliquée sur cette circonscription. Mais je crois qu'il y a un autre phénomène qui explique le score que j'ai réalisé, c'est mon implantation locale, puisque donc j'habite la circonscription. J'ai été candidat aux élections départementales l'année dernière sur le canton de Bonnières, qui fait partie de cette circonscription et au cours de laquelle je suis arrivé au second tour. J'ai été élu au sein de la communauté urbaine GPSO, dont une partie des communes est présente sur la 9e circonscription. Donc je pense que la dynamique nationale du Rassemblement national, combinée à une implantation locale forte et à un travail de terrain que nous réalisons depuis déjà pratiquement 10 ans maintenant sur le secteur, explique ce très très bon résultat, et j'ai beaucoup d'espoir pour ce second tour.
Alors justement, vous en parliez, vous êtes arrivé deuxième aux élections municipales à Mantes-la-Ville, de pas de beaucoup. Il y avait combien de voix d'écart entre votre liste et celle de M. Damergy?
Oh, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'il y avait un écart important avec le troisième.
Ah oui, avec le troisième. Mais oui, vous êtes arrivé deuxième, vous êtes arrivé au second tour.
Oui, oui, tout à fait.
Patrick Stefanini également, vous en parliez, les élections départementales.
Oui.
Et là, vous arrivez également deuxième. Alors, est-ce que c'est la bonne, celle-là?
Bah, on l'espère, on fait tout pour en tout cas. Nous sommes sur le terrain depuis, comme je vous le disais, depuis 10 ans, et plus particulièrement depuis 2 ans.
Parce que votre opposant ne vous voit pas beaucoup sur le terrain,
oui,
il nous a dit tout à l'heure.
Oui, bah, il répète ça à longueur d'interview. Moi, j'estime que ce sont des arguments de cours d'école. Je pense qu'il y a d'autres sujets qui intéressent bien plus les électeurs, comme le pouvoir d'achat, la sécurité, l'environnement, et ces sujets très importants pour le quotidien des Français. Je suis bien sûr sur le terrain depuis très très longtemps. Je viens d'en parler d'ailleurs concernant l'explication peut-être de mon score. Je suis vraiment implanté sur le terrain, je travaille le terrain. Et donc, je pense que dans le cadre de ce second tour, il y a certainement possibilité d'écarter un député de la majorité. Nous allons en parler sans doute par rapport au report de voix et aux sujets qui sont les sujets importants des Français. Mais je pense qu'effectivement, il y a l'opportunité dans cette circonscription, pour la première fois peut-être dans les Yvelines, de permettre à une candidature alternative d'accéder à l'Assemblée nationale pour deux objectifs. Le premier objectif, c'est de faire en sorte qu'Emmanuel Macron ne puisse pas avoir les pleins pouvoirs pour les 5 prochaines années, puisque nous avons vu lors du quinquennat précédent qu'il était tout à fait capable d'être brutal, d'être méprisant à l'égard des Français, et que s'il avait les pleins pouvoirs pour 5 ans supplémentaires, je crois qu'il lâcherait les chevaux et les coups. Et je pense que tous les Français en subiraient les conséquences graves au niveau social, notamment, et que donc l'objectif, c'est qu'il n'ait pas les pleins pouvoirs, que nous arrivions à l'Assemblée nationale à entraver la mise en œuvre de ces mesures, et que d'autre part, par la constitution d'un groupe puissant à l'Assemblée nationale avec des députés patriotes, nous soyons en mesure de nous-mêmes proposer des projets de loi sur un certain nombre de sujets pour défendre les Français sur le pouvoir d'achat, l'environnement, la santé, la sécurité.
Alors, qu'est-ce que vous répondez lorsqu'on vous dit, mais de toute façon, même si vous êtes élu, vous n'arriverez pas à faire avancer les projets locaux?
Bah, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux parce qu'à partir du moment où vous êtes élu, vous avez forcément accès à des commissions, à des relations parmi les institutionnels, parmi les ministères. Et vous pouvez défendre un certain nombre de sujets. Je prends un exemple, c'est pourtant pas ma tasse de thé, mais je prends l'exemple des carrières Calcia sur la 8e circonscription des Yvelines. Nous étions opposés à ce projet-là. Il y avait également, à l'époque, le député Michel Vialet, des Républicains, qui s'était opposé à ce projet. Il y avait eu une sorte de dynamique des élus locaux, des acteurs locaux et des habitants, des associations contre ce projet. Michel Vialet a fait, et je dois lui reconnaître au moins cela, a utilisé son influence de député non majoritaire à l'Assemblée nationale pour s'opposer à ce projet. Finalement, ce projet a été écarté pour l'instant. Donc vous voyez qu'on peut être député sans être dans la majorité présidentielle et influer sur le cours des choses. Et en l'occurrence, quand on met de l'énergie, de la volonté et de la sincérité dans ces combats politiques, je pense qu'on peut faire bouger les lignes, y compris quand on n'est pas dans la majorité présidentielle.
Alors, vous nous disiez il y a quelques minutes que vous étiez content d'être au deuxième tour, mais il y a quand même le petit hic de cette élection, c'est le niveau d'abstention, 52,49% au niveau national, et dans la 9e, 52,94%. Plus de la moitié des gens n'ont pas été votés.
Oui, bah, je le regrette bien évidemment. Je pense que ce phénomène de l'abstention s'explique par deux raisons. La première, c'est que sans doute les Français ont estimé après l'élection présidentielle qu'il n'y avait peut-être plus d'enjeux ou peut-être beaucoup moins d'enjeux pour ces élections législatives et ne se sont donc pas déplacés aussi massivement que pour l'élection présidentielle. Première raison. Et la deuxième raison, je pense que c'est l'absence de la proportionnelle qui fait que les électeurs sont peut-être, considèrent peut-être qu'ils sont déconnectés de leurs élus, qu'ils n'ont pas de représentation à l'Assemblée nationale.
On va rappeler la proportionnelle.
Oui.
Qu'est-ce que la proportionnelle pour nos auditeurs ?
Ben, la proportionnelle, c'est ce qui devrait faire en sorte que lorsque, dans une circonscription par exemple, une force politique arrive de manière très importante en score, en tête par exemple, sur cette circonscription, elle puisse avoir un député qui la représente. Le problème, c'est que...
Il n'y aurait qu'un tour et ça sera le premier arrivé ?
Oui, ça pourrait être une réforme qui soit mise en place pour permettre justement à ce que les différentes forces politiques du pays soient représentées à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que le mode de scrutin tel qu'il est aujourd'hui ne permet pas une juste représentation à due proportion des forces politiques du pays à l'Assemblée nationale. Donc les électeurs finalement se disent « bon, bah, à quoi bon aller voter puisque de toute façon je ne serai pas représenté comme je le pense à l'Assemblée nationale ?» Donc voilà, Emmanuel Macron avait promis lors de son premier quinquennat d'instaurer une dose de proportionnelle pour les élections législatives suivantes. Il ne l'a pas fait, il n'a pas su, il n'a pas pu, il n'a pas voulu le faire. Nous savons maintenant qu'Emmanuel Macron n'est pas très ami avec la démocratie. Il promet maintenant de nouveau d'instaurer une dose de proportionnelle dans son futur quinquennat. Permettez-moi d'en douter, puisqu'il ne l'a pas fait lors du premier, pourquoi le ferait-il dans un second ? Mais je pense que voilà, ces deux phénomènes, sans doute, expliquent l'abstention. Et j'appelle les électeurs sur cette 9e circonscription à se mobiliser, parce que si les abstentionnistes saisissent cette opportunité qui leur est donnée, c'est-à-dire d'écarter un député de la majorité présidentielle, eh bien, je pense que ce sera bénéfique pour eux. Donc, j'appelle les abstentionnistes à se mobiliser pour ce second tour et à porter leur choix sur ma candidature, bien sûr. Mais je reviendrai peut-être à la fin sur les différents appels.
La fin arrive bientôt dans 2 minutes 30. Deux sujets que je vais aborder avec vous. Le pouvoir d'achat. Si vous êtes élu député, qu'est-ce que vous feriez qu'est-ce que vous voteriez comme loi pour améliorer le pouvoir d'achat des Français ?
Eh bien, nous reprenons les propositions que Marine Le Pen a faites pendant l'élection présidentielle, c'est-à-dire diminuer la TVA de 20 à 5,5% sur les produits énergétiques que nous considérons comme des produits de première nécessité pour un certain nombre de Français qui sont obligés dans les secteurs où ils vivent, notamment les secteurs ruraux, à utiliser leur voiture, par exemple.
Dans la 9e, par exemple ?
Par exemple, tout à fait, cela s'applique particulièrement bien à la 9e. Donc, baisser la TVA de 20 à 5,5 sur le carburant, le fuel, le gaz, l'électricité. Supprimer la TVA sur une centaine de produits de première nécessité, comme les produits d'hygiène ou les produits alimentaires. Baisser le tarif des péages de 15%, supprimer la redevance audiovisuelle. Et puis également, permettre aux chefs d'entreprise qui embaucherait de nouveaux salariés et qui surtout augmenterait les salaires d'exonérer cette augmentation de salaire de cotisation patronale. Donc tout est prévu justement pour améliorer le pouvoir d'achat.
Laurent Morin, vous allez travailler jusqu'à quel âge ?
Eh bien écoutez, j'aimerais que nous portions à l'Assemblée nationale effectivement, ce que Marine Le Pen a proposé, c'est-à-dire une retraite à 60 ans pour les personnes qui ont travaillé avant 20 ans, qui ont commencé à travailler avant 20 ans, et 62 ans pour les autres. Donc c'était une proposition très différente de celle d'Emmanuel Macron, qui lui propose un départ à la retraite à 65 ans. Donc là aussi, enjeu très important pour les électeurs.
Et vous alors ? Si vous êtes élu et que Marine Le Pen a la majorité absolue, vous travaillez jusqu'à quel âge ?
Ah mais moi, j'adore travailler, donc jusqu'au bout.
Jusqu'au bout. Allez, dernière question. Dans la 9e circonscription, un secteur est susceptible d'accueillir des éoliennes et vous êtes contre ce projet ?
Oui, parce que en tant qu'élu à la région, et notamment, je fais partie de la commission environnement et j'ai constaté que dans le schéma régional éolien, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, la région Île-de-France possède un certain nombre de secteurs qui sont identifiés comme pouvant recevoir des implantations d'éoliennes. Et la 9e circonscription, une grande partie de la 9e circonscription...
Donc vous me disiez de Bonnières à Houdan ?
Oui, de Bonnières à Houdan, il y a une zone qui est identifiée par le schéma régional éolien comme pouvant recevoir des éoliennes. Marine Le Pen et moi-même sommes très attachés à la défense de l'environnement et nous considérons que les éoliennes est une fausse bonne idée environnementale et nous souhaitons nous opposer fortement à l'implantation de nouvelles éoliennes. Donc en tant que député, je m'opposerai à toute implantation d'éoliennes sur la 9e circonscription. Et de manière générale, nous prenons le démantèlement des éoliennes qui sont déjà construites en France.
Ça sera le mot de la fin, Laurent Morin. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Cette émission sera rediffusée à 13h et 18h. Vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast puis élections législatives. Demain, nous reviendrons dans la 8e circonscription avec les deux candidats qualifiés pour le second tour. En direct à 7h30, ça sera Edwige Hervieux, candidate de la majorité présidentielle. Et à 8h30, ça sera Benjamin Lucas, candidat à la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Excellente journée à l'écoute de BPM.
BPM, élections législatives 2022.